Message à caractère informatique.
Message à caractère informatique.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, épisode numéro 158. Aujourd'hui, nous sommes le 4 mai 2026. Je suis Horacio González et aujourd'hui, pour cet épisode spécial CKE, j'ai avec moi des merveilleux collègues. Qui se cache derrière ces deux vannes très corporate, vraiment? C'est Gilles. Bonjour, Gilles.
Bonjour à tous.
Et qui se cache derrière ce panda? Celui-là, c'était facile. C'est Antoine. Bonjour, Antoine.
Bonjour.
Pour info, Antoine est universellement surnommé panda, donc ça explique bien le pourquoi. Bon, on va faire un tout petit tour de table rapide en commençant justement par Antoine. Antoine, panda, qui es-tu?
Ouais, moi je suis tech lead à Clever, je bosse à Clever depuis, je sais plus, 4 ans, un truc comme ça, 5 ans, je me souviens plus. Je travaille sur les sujets de compute, que ce soit la virtualisation et Kubernetes, ce genre de choses.
Voilà, et Gilles, qui t'y est ?
Du coup, je m'appelle Gilles Bianic et j'ai rejoint Clever il y a 2 ans et demi aux côtés d'Antoine sur le projet Kubernetes. Du coup, je suis principalement sur ce projet-là depuis 2 ans et demi.
Et si on est ici aujourd'hui et très content, c'est parce que semaine dernière, Clever Kubernetes Engine est officiellement en bêta publique. Ça veut dire que vous avez réussi, les gars. Il est sorti. C'est un vrai client de Dan. Est-ce que vous voulez raconter un petit peu, même si on a fait un tweet sur le sujet il n'y a pas longtemps, voilà, qu'est-ce que c'est le CKE?
Ouais, alors en gros, c'est notre propre distribution Kubernetes. C'est très proche de Vanilla. Et la spécificité, un peu, c'est que, spécifiquement dans la construction du produit, mais c'est que nous, on vient d'un monde, du coup, chez Clever, qui est le PaaS. Et on avait beaucoup couplé notre couche de virtualisation avec le PaaS, parce que c'est comme ça que la boîte a été montée et ce qui nous rendait beaucoup service à l'époque. Quand il a fallu se poser la question de la diversification et notamment via Kube, ça avait quand même quelques limites de faire ça. On avait déjà beaucoup poussé le modèle avec les DB Manager et là ça devenait très très compliqué, sachant que la partie orchestration d'un cluster Kube est très différente du PaaS. Il y a plein de composants, les composants ils ont besoin de démarrer dans un ordre très précis, le rolling upgrade c'est pareil, il y a besoin d'un contrôle très fin. Donc on s'est dit que c'était le moment d'aller investir dans une nouvelle couche de compute qui bénéficierait au PaaS à un moment et qui permettrait à Kube de s'épanouir. Et donc on a principalement travaillé dans un premier temps à refaire un système, une couche de compute, que ce soit control plane, data plane. Et déjà pour être capable de sortir un produit de ce côté-là, enfin d'avoir les fondamentaux pour construire des produits qui sont au niveau du marché en termes de disponibilité. Il y a quelques années, quand j'étais chez OVH, on considérait que si le data plane tournait avec les clients, c'était le Saint Graal, c'était là qu'étaient les contrats d'engagement de service, etc. Le control plane était beaucoup moins critique dans ces couches-là, et plus ça va, plus on avance, plus nos clients attendent que le control plane soit là pour l'auto-healing, pour l'auto-scaling, ce genre de choses. Et dans cette professionnalisation-là, nous, il a fallu qu'on avance sur la partie de compute. Donc on a passé pas mal de temps à faire ça, à essayer de bosser beaucoup de dossiers très très sympas, mais qui sont compliqués à mettre en place. Par exemple, le fait qu'on puisse déployer un ensemble de VM de manière transactionnelle pour garantir les contraintes que les contraintes de placement soient satisfaites, ce qui est historiquement pas un truc qui est partout. Notamment, moi j'ai beaucoup bossé avec OpenStack, et OpenStack à l'époque garantissait pas toujours ça, ça dépendait de l'implémentation. Et apparemment les dernières versions récentes commencent à supporter ça, mais en tout cas les versions avec lesquelles je bossais à l'époque le supportaient pas du tout. Et ça pose un certain nombre de problèmes, parce que quand on a un petit client et qu'on commande une VM par an, ça va. Par contre, quand on commence à vouloir utiliser vraiment le produit en tant que cloud, ce qu'on va vouloir, c'est des déploiements compliqués avec des contraintes d'anti-affinité, etc. Et ça, ça peut bien se passer que si le déploiement est transactionnel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on a plusieurs personnes qui essayent de faire ça en parallèle, elles ont tendance à se voler la place. Et nous, on est un cloud provider, donc c'est le modèle qui veut ça. Oui. Et si le déploiement n'est pas transactionnel, le risque, c'est de passer sa vie à démarrer la première VM, puis la deuxième, puis la troisième, ne pas trouver de place, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de faire la même chose à côté, avec tout le monde qui se marche dessus. Donc on est obligé de faire de l'optimistic locking pour être capable de satisfaire tous les clients en même temps. Par contre, il faut quand même qu'on soit transactionnel, ce qui sont deux contraintes un peu opposées sur le déploiement, parce que c'est ça qui permet d'optimiser les chances que les déploiements se passent bien. Donc ça, ça a été un gros dossier. Une fois qu'on a réussi à sortir un truc qui marchait de ce côté-là, bah après, il faut créer un produit Cube, ce qui a beaucoup d'implications dans toute la boîte, que ce soit le network, le storage, le load balancing, la gestion des images, beaucoup de choses. Et peut-être, Gilles, tu veux en parler un peu de cette phase-là sur laquelle tu es arrivé.
Oui, c'est clair que monter un Kubernetes Manager, c'est pas trivial. Il y a quand même beaucoup de dépendances, et c'est ça aussi qui nous a permis de retravailler plusieurs couches de Clever pour les besoins justement de la sortie du Kubernetes Manager. La plus grosse couche étant bien sûr la partie de compute qu'on a refait. Je sais pas si j'introduis le sujet maintenant ou pas, mais que aussi il y a une des briques de Kubernetes qu'on a voulu absolument retravailler avant de sortir le moindre produit.
On en parlait un petit peu dans les Twitch, mais c'est, je pense que beaucoup de monde ne l'a peut-être pas encore écouté, donc tu peux introduire carrément.
Là, il y a la couche la plus importante, je pense, de Kubernetes, c'est la partie stockage de l'état en fait du cluster Kube, qui est géré du coup historiquement avec etcd. Et je dirais que etcd, il y a des points négatifs. Je pense que Panda meurt d'envie de nous en parler. et du coup, pour ça, on est allé, on a taclé ce sujet-là en enlevant la partie etcd de Kubernetes et en le créant, en créant un etcd mutualisé au sein de Clever. Je vais laisser Panda mieux l'expliquer.
Ouais. En fait, c'est drôle parce que dans les tweets, quand on avait parlé, autant Panda que moi, on avait dit « Oui, il y a pas mal de littérature qui est écrite autour de pourquoi etcd ne marche pas à l'échelle. » Et aujourd'hui, je crois que plutôt que commencer à faire un inventaire de prévoir des raisons, on a même un lien à proposer, non ?
Ouais, carrément. Du coup, je l'ai vu passer il y a un petit moment, c'était en février, là j'ai remis la main dessus, un thread de Daniel Polentic, qui est le fondateur de Learn Cavites. Vous avez peut-être vu passer leur post sur X. C'est un gars qui gère une boîte de formation sur Cube, qui explique pourquoi TCD ça casse à l'échelle, et qui donne les points clés par composant avec un détail du fonctionnement et tout. C'est assez intéressant. Ça reste accessible en termes d'approche, en termes d'explication. Il y a des graphiques, c'est assez cool, mais ça explique un peu les points clés de pourquoi ça casse à l'échelle. Je pense que je vais pondérer un peu ce que tu disais, Gilles. C'est pas forcément que des points négatifs. Je dirais que c'est plus générationnel en termes de maturité de base de données. En fait, ce qu'on a besoin comme base de données pour faire un produit comme Kubernetes, c'est une base de données qui est très consistante et qui gère les événements de manière ordonnée. Donc c'est consistant, événementiel avec les événements ordonnés. Historiquement, il y a un truc qui s'appelle Zookeeper, que nous on a utilisé pour la partie compute, qui fait ça aussi. Et Zookeeper comme etcd, ils ont leurs limites, qui est liée au modèle. L'idée c'est que ça je vais pas revenir dans le détail, puis vous verrez le poste, mais en gros, ça gère un seul espace de clé, ce qui est une limite de taille maximum. C'est ce qui fait que le système et la garantie d'ordonnancement des événements et des écritures est assez simple à gérer. Zookeeper, parce qu'il inerte toutes les opérations, et ETCD, il fait un peu de dark magic, mais pour pouvoir faire du multimaster un peu plus intelligent, mais il est aussi limité par ce truc-là. Et en fait, ça fait quelques années que, je pense HBase en tête, on a commencé à bosser sur des technologies distribuées qui permettent de gérer plusieurs keyspaces, et du coup de scale beaucoup plus. HBase à l'époque était très capricieux. Depuis, il y a un autre framework qui est sorti qui s'appelle Fondation DB, sur lequel nous on s'est appuyé, et qui est un framework pour créer ces bases de données et à la fois une base de données KV distribuée qui est vraiment conçue pour être opérée à grande échelle. Le système est capable de dire lui-même quel sous-composant starve en termes de ressources, dans quel type de ressources. Le système se reconfigure tout seul à chaud, et c'est pas que de l'élection ou des composants qui meurent, il est capable de dispatch lui-même quel rôle a besoin, etc. Donc c'est assez fort. Et du coup, on s'est appuyé là-dessus pour construire un produit qui s'appelle Materia ETCD. Alors, c'est pas un produit qu'on vend directement, ça pourrait être discuté plus tard, mais c'est surtout la base pour créer Clever Kubernetes Engine. Et je trouve ça intéressant de ce thread là pour expliquer quelles sont les limites. Donc c'est une limite à la fois, donc je disais par rapport à la base de données qui est une génération de bases de données différentes avec des approches différentes. Cette nouvelle génération, elle a été permise notamment par la simulation. On vous mettra le lien, mais on a Pierre Zem chez nous qui est notre staff engineer en charge de fondation et de Materia, qui a fait un certain nombre de talks où il explique qu'est-ce que c'est la simulation et pourquoi c'est intéressant. Dans les grandes lignes, pour appuyer mon propos, là, c'est quelque chose qui permet d'accumuler de l'expérience opérationnelle plus rapidement que l'expérience opérationnelle qu'on peut avoir quand le système tourne. Et c'est ça qui permet d'aller construire ce genre d'outils comme Materia ETCD. Donc en gros, on a fait le choix qu'un certain nombre de gens ont fait, qui est de réécrire un shim, un layer pour ETCD, histoire de pouvoir passer d'aller un peu plus loin que l'approche traditionnelle qui est de dire on met un cluster ETCD par cluster cube. Ça, c'était peu soutenable pour nous et c'était pas forcément intéressant d'un point de vue tarif pour les clients. Parce que un cluster ETCD à démarrer, ça demande beaucoup de ressources, ça a besoin de son NVMe dédié, ça a besoin de pas mal de CPU, pas mal de RAM pour bien tourner, pour encaisser les écritures. Et du coup, là, l'idée, c'était plutôt de dire, en fait, il faut qu'on permette d'avoir la meilleure expérience au client en restant dans des coûts qui sont intéressants. Donc voilà pourquoi on a bossé là-dessus.
Et puis il y a aussi le coût opérationnel de gérer plein de petits clusters ETCD, alors que là maintenant on a juste un gros cluster dans lequel il y a tous les ETCD en gros de tous les clusters cubes qu'on a.
Basiquement, on peut le faire donc moins cher pour les clients et plus facile à opérer pour nous, donc tout le monde gagne. Comme on parlait dans les tweets, le prix à payer pour faire ça, c'est investir dans la R&D. Mais étant donné notre rôle comme cloud provider, ça faisait vraiment intéressant de faire cet investissement en R&D pour avoir ces gains après, quoi.
Et puis en plus, la R&D, vu qu'en fait l'idée est présente dans l'esprit de certains ici dans Clever depuis longtemps, en fait, la partie développement du coup de la R&D n'a pas pris tant que ça de temps au final. C'est pas ce qui a pris le plus de temps sur la construction du produit cube.
Ça fait des années qu'on modélise le truc et tout, qu'on sait à peu près où on va. Il y a eu pas mal de détails d'implémentation, notamment sur les watches, qui étaient un peu sur lesquels on a un peu bossé. Mais on avait une idée. Hein. On a découvert des comportements marrants dans l'API serveur, certains qu'on connaissait, qu'on a redécouvert, d'autres sur lesquels on avançait, et du coup on était très content d'avoir des outils comme Claude, au moment où ça émergeait, quand on a bossé là-dessus, pour aller pinpoint dans le code de l'API server, quel composant fait quoi, etc. C'est une grosse code base et ça aide vraiment le fait de pouvoir retrouver. Par exemple, l'API server a ce qu'on appelle un watch cache, qui est un read cache pour optimiser les performances. Ce truc-là, on le connaît depuis très longtemps et on sait qu'il pose un certain nombre de problèmes, surtout quand il y a un ETCD peu responsive en face. Et retrouver toutes les interactions avec les channel go, etc., dans le code de l'API server, c'est toujours quelque chose de long, c'est un petit bâton de pèlerin, et puis on part en pèlerinage. Donc l'IA nous a beaucoup aidé pour retracer toutes les interconnexions dans ce gros monorepo qui est Cube, et ça a été vraiment un gros empowerment pour avancer sur ce projet-là. Quoi.
Bon. Je ne vais pas te demander de nous expliquer encore pourquoi on fait des Kubernetes chez Clever, parce que si vous êtes intéressé, les tweets expliquent bien en long et large et travers les raisons et pourquoi c'est complémentaire avec notre passé historique. Donc je pense que je vais plutôt te demander, je suis sûr que ces derniers temps, en étant tous les deux aussi plongés dans un cube, vous devez avoir un paquet de news cube intéressants à nous partager, donc quitte à faire un épisode spécial cube, est-ce qu'il y a des liens intéressants que vous avez trouvé, des liens, des trucs, des news? Qu'est-ce que tu peux nous raconter alors?
Carrément. Déjà, ça commence à dater un petit peu parce que c'était en mars, mais il y a eu des grosses annonces.
On n'avait pas parlé, donc il y a droit.
C'est ça. Il y a eu des grosses annonces à la KubeCon cette année. La première, c'est que NVIDIA a donné ses drivers de DRA, c'est pour Dynamic Resource Allocation, sur les GPU à la CNCF. L'idée, c'est, alors vous noterez quand même que c'est un move assez dingue, NVIDIA considère que ses drivers, c'est son avantage concurrentiel historiquement, oui. Et du coup les gardes privés, je pense que tous les gens qui ont utilisé un laptop Linux pendant longtemps savent de quoi je parle, galère que c'est les drivers open source de GPU, le GPU qui fait n'importe quoi, les drivers nouveaux, etc. Donc c'est un move un peu surprenant.
Et pourquoi, selon toi?
Je pense qu'ils ont une telle position dominante sur le hardware et sur la performance hardware que maintenant ils peuvent se le permettre et qu'ils ont intérêt à enable plus d'usages via le cloud, quitte à perdre un peu cet avantage sur les drivers parce que tous leurs concurrents peuvent y avoir accès. Mais je pense qu'ils sont dans une phase où on a le marché, donc maintenant il faut développer les usages. Et comment on développe les usages dans le cloud? En fait, il n'y a personne chez les cloud providers qui est prêt à les mettre du full driver propriétaire partout et à grande échelle, parce que c'est une tannée à gérer et parce que ça nous permet pas forcément de débug ce qui se passe quand les comportements sont bizarres. En tout cas facilement, et du coup je pense qu'ils ont compris que l'enabler là c'était de rendre open source cette couche là et donc il y a ce volet là et de l'autre côté il y a le marché leurs clients directement, les gens qui font de l'inférence ou du training qui utilisent massivement Kubernetes. Donc la jonction de ces deux mondes là fait que ça paraît être un move cohérent rendu là.
Oui, ça veut dire que, mis à part moi, que je vais pouvoir mettre dans mon Linux enfin des drivers open source pour ma petite carte graphique, mais pour un cloud provider, et surtout pour des cloud providers qui utilisent Kubernetes, ça débloque quoi en gros?
Alors, je ne sais pas trop si ça va t'aider avec tes drivers GPU, parce que je ne suis pas sûr que ce soit purement les drivers graphiques, c'est les drivers clients, c'est pour le contrôle assez fin du GPU en termes de séparation et de prendre un GPU et de mettre plusieurs clients dessus, de ce que je comprends.
De la virtualisation d'un GPU en plusieurs.
En gros, de ce que je comprends, je ne suis pas du tout un expert GPU, donc dans les commentaires, si je dis n'importe quoi, corrigez-moi, s'il vous plaît. Je ne veux pas passer pour un nul. Je préfère être corrigé que de me tromper. Pas mal de contrôle, enfin d'accès à la gestion des requêtes pour le compute, pour la mémoire des GPU, et ça c'est assez cool. Ça va permettre aux gens qui utilisent beaucoup ces workloads là de faire des choses. Et puis un certain nombre d'autres choses, mais qui est probablement lié, le support des GPU pour Kata Containers, Donc Ada Containers, pour ceux qui connaissent pas, c'est une technologie de... Alors c'est une CRI, donc un truc qui vient remplacer Container Runtime Interface. Donc c'est un exécuteur de conteneurs qui remplace Containerd. Et au lieu de faire du cgroup et du namespace à la Docker, ils font de la virtualisation. Donc c'est un projet très très intéressant qui est là depuis un moment. Et du coup, ils annoncent le support GPU. Et le support du confidential computing avec du hardware particulier. Donc nous, il va falloir qu'on mette notre nez là-dedans assez sérieusement. Moi, j'aimerais bien réussir à faire tourner KT Containers en asset virtualisation sur CKE. Mmh. Ce serait assez cool. Normalement, on sait déjà faire de la asset virtualisation. On le fait ad hoc parce qu'on ne veut pas monter les endpoints de asset virtualisation partout parce que c'est vecteur de faille. Mais on a des tests marrants à faire, je pense, côté KT Containers et ça se POC. Et il y a aussi des projets sur des schedulers que je connais pas, et Grove qui est un système pour faire de l'orchestration de workloads d'inférence sur des clusters de GPU depuis le cluster cube. Donc ça, pour moi, ça ressemble un peu à, dans une autre dimension, mais à ce qu'on a fait avec l'opérateur Clever, qui est permettre aux gens de commander et de piloter des ressources qui sont externes, qui sont dédiées depuis le cluster cube avec de l'intégration, etc.
Ok. Pas mal de software qui était cédé à la CNCF dans ce cadre-là.
Ouais. Carrément.
Bon, bah, et à part cette news-là des KubeCon, de quoi d'autre on pouvait parler? Tiens, tu m'as rappelé tout à l'heure qu'il y avait un truc très sympa que je voulais tester depuis un moment, que c'était Kawites Quest.
Ouais, alors il y a des gens que je connais pas trop, mais j'ai commencé à regarder ce projet-là et ça a l'air super intéressant, qui ont fait un projet sur GitHub qui s'appelle Kawites Quest. Et l'idée, c'est d'apprendre à l'opérationnel de Kube. Via des challenges. Et l'idée, c'est une UI, c'est une jolie UI terminale, et on vous emmène dans qu'est-ce qui se passe, donc apprendre à faire du monitoring, apprendre à débugger des choses dans Kubernetes. C'est assez cool parce que Kube, c'est un écosystème un peu à part, avec ses propres ressources, ses propres noms, ses propres concepts, et du coup avoir un truc pour comprendre comment ça marche.
Simplement, les noms des challenges, ça donne déjà envie de se lancer niveau 1, Crash Loop Backoff Challenge, niveau 2, déploiement zéro réplica, niveau 3, Image Pullback of Mystery, de que tu as fait un tout petit peu de Kubernetes, tu vois bien les erreurs que tu as là, tu vois bien comment tu as galéré les premières fois que tu les as trouvées, et tu dis, ça aurait été cool d'apprendre ça avant de te les retrouver en prod dans la vraie vie et de voir dire pourquoi ça ne marche pas, quoi.
Bah c'est ça, puis là ça reprend un peu l'approche des coding games classiques avec des rewards,
de la progression. Des points d'expérience, des XP, ouais.
Et du coup l'approche est vraiment cool, puis ça tourne complètement localement si vous avez besoin. Il n'y a pas besoin d'une cloud-based subscription.
Oui, il y a 5 mondes. Le dernier a des choses comme les airbag ou les time and tolerations. Ah non, je pense que ça va être vraiment fun. Et si vous voulez apprendre à vous faire la main avec Kube, ça peut être une super ressource.
Carrément, ça a l'air top. Et nous, on va jouer un peu avec aussi parce que ça fait du bien de garder la main.
Oui.
Sinon, dans les actus et dans le, moi j'ai vu passer pas mal d'outils qui sont sympas pour simplifier la vie. Pour discuter avec Kube, parce que alors, quand ça fait longtemps qu'on en fait, on a tendance à rester stuck dans du kubectl à la main, mais en vrai on a fait des choses depuis très longtemps. Notamment il y a un truc qui s'appelle K9S, qui est un dashboard local qui existe depuis un moment, qui est très sympa. Et bah il y a, comme c'est la mode en ce moment, Et pour de bonnes raisons, je pense. Il y a beaucoup de gens qui récupèrent des trucs en Rust, que ce soit chez nous ou dans l'open source. C'est un move assez classique, parce que Rust a pas mal d'avantages. Et du coup, il y a des gens qui ont fait un projet qui s'appelle B4N, qui est du CanFS-like, qui est basé sur du coup sur Rust et Ratatouille, qui est un framework pour faire des terminals UI qui est très sympa. Et du coup,
il n'y a pas un épisode de Massis en un terminal UI. Quelque part, on voit qu'on adore les twins.
Bah, en fait, plus ça va, plus on a des outils avancés. Mais on les colle tous dans le terminal. Enfin, on peut parler du succès avec Claude Code, mais alors que tu vois, on aurait très bien pu utiliser les apps desktop et tout. Et la réalité, c'est que on aime tous un peu, je pense, dans les ingénieurs, avoir des trucs un peu Minitel-like. Et je sais pas trop pourquoi, c'est de la nostalgie un peu mal placée, je pense. Mais on pourrait très bien utiliser des outils d'UI beaucoup mieux, beaucoup plus avancés. Mais je sais pas, l'interconnexion déjà avec les outils Unix, le fait de pouvoir piper les choses. Il y a plein de
trucs
historiques et on aime vraiment.
Autant les facteurs nostalgie, je peux les comprendre pour moi. J'ai connu ces outils-là. J'ai bougé les fichiers avec MyNet Commander à l'époque et des choses comme ça. Mais c'est drôle quand même. En 2026, voir toute une nouvelle génération de outils en terminaux qui apparaissent et plutôt et plus bien fait, quoi.
Ah bah c'est clair, et si tu réfléchis, si tu regardes, il y a plein de messageries modernes qui ont des intégrations, alors qui ne sont pas forcément portées par ces messageries, mais qui ont des intégrations pour être utilisées depuis le terminal, tu vois. Les gestionnaires de mots de passe, c'est pareil. En fait, je pense qu'il y a encore énormément de gens qui ont un usage du terminal. Ça paraît niche, mais en fait, chez les développeurs et les gens, les SRE, il y en a encore beaucoup qui utilisent ça. Dans la même vibe, pas la même approche, mais la même vibe, il y a un outil qui a l'air un peu marrant qui s'appelle Radar. On est encore dans du Tooling Cube. C'est un dashboard, c'est aussi graphique, qui tourne en local et qui a l'air un peu beau. Moi, j'aime bien. Je trouvais que le dashboard historique de Cube, il était pas sensationnel. Et là, les mecs, ils ont fait une belle palette. Il y a des boutons partout, il y a des graphiques. Ça a l'air sympa. Faut qu'on teste ça, mais le tool a l'air cool.
Radar. On va mettre aussi les liens, carrément.
Bah ouais. Et ça tourne en local, il n'y a pas besoin d'installer des trucs dans le cluster. Enfin, c'est un peu la vibe des outils maintenant, ce qui est assez cool. Ça évite de prendre du compute pour pas grand chose. Et du coup, ça me fait une transition parfaite à comment est-ce qu'on. Enfin, au sujet un peu à la mode en ce moment qui est globalement, quand on fait tourner un cluster cube, ils sont souvent très vides. Très très vides. Pour plusieurs raisons. Déjà, il y a un pied de pilote à garder en termes de sécurité, en termes de quantité de ressources disponibles, parce que le piège un peu classique de mélanger le scaling horizontal et la haute disponibilité, c'est que si vous gardez pas de ressources pour faire la haute disponibilité, si vous perdez un tiers de votre cluster, bah, vous pouvez pas reschedule, parce qu'il n'y a plus de place. Donc, il y a déjà un facteur de headroom à laisser dans le cluster, mais il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte qu'en fait il y avait beaucoup plus que ça. Les clusters, ils tournent vraiment pas beaucoup. Faudra que je retrouve le blog post, mais il y a une boîte qui s'appelle Cast.ai qui a fait un rapport là-dessus, et je crois qu'on était à quelques pourcents d'utilisation CPU il y a quelques années sur la moyenne des clusters qu'ils avaient regardé, et on parle de clusters de prod et tout. Ouais. Et cette approche-là de regarder un peu en détail la consommation de ces clusters, elle est assez intéressante, parce que bah, le but c'est pas de jeter des ressources par la fenêtre, et le but de la mutualisation du cloud c'était justement d'éviter d'avoir des ressources immobilisées pour rien. Donc c'est un peu dommage qu'on ait ce side effect. Il s'explique par une chose assez simple, c'est que dans la plupart des organisations, et à juste titre, c'est les développeurs qui choisissent les ressources et les limites de leur pod, parce qu'ils sont censés savoir combien ça consomme. La réalité, c'est qu'être capable de prédire combien son stuff va consommer dans quel scénario, c'est pas évident. pour plein de raisons, parce qu'on prévoit pas tout, parce qu'il y a des bugs, etc. Donc, que font la plupart des développeurs précautionneux, et à raison, ils mettent des requests à des limites très hautes dans leur cluster Kube. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la façon dont le scheduling est géré dans Kube historiquement, moi je la trouve un peu naïve, dirons-nous. En gros, ce qu'elle fait, c'est qu'elle regarde la quantité de CPU et de RAM disponible sur le host, elle additionne toutes les requests et les limites, et si ça match, enfin en gros, dès qu'on atteint ce seuil-là dans la somme, et ben elle arrête de scheduler.
C'est surtout extrêmement embêtant. Parce que dans plein de cas, les requests et les limites n'ont pas grand-chose à voir avec la vraie consommation et les vrais besoins des applications. Souvent, c'est mis par défaut ou c'est configuré par défaut niveau namespace et les développeurs ne les changent pas. En gros, c'est des mesures déclaratives qui sont qui ont des sens quand tu connais très bien ton appli, quand tu connais très bien ses besoins, ce qui est souvent pas le cas.
C'est ça, et en fait, c'est un peu bizarre parce que pour moi, c'est un héritage de la virtualisation, ça. C'est-à-dire que dans la virtualisation, ça fait très longtemps qu'on a cette approche déclarative et qu'on met du monitoring derrière et qu'on ajuste. Pourquoi ? Parce que la plupart des outils de virtualisation te demandent de prévoir au moins le nombre de CPU et la quantité de RAM que tu vas utiliser, mais s'il y a des raisons techniques derrière, c'est du mapping, c'est de la génération de pages mémoire, etc. Ce qui dans du conteneur s'explique beaucoup moins, je trouve, parce que bah, en fait c'est des process, donc tu devrais pas trop avoir besoin de déclarer ça
en avance. Autant les limites, je peux presque comprendre,
ouais, d'accord.
Mais
les requests, je trouve ça un peu bizarre. Et donc, bon, c'est ce modèle-là qui tourne depuis longtemps. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe quand on met juste ce modèle-là? Et bah, les gens prennent plus et pour être sûr que ça marche. Et on se retrouve à pas utiliser les ressources en dessous. Il y a un certain nombre de projets qui sont mis en tête de vouloir optimiser ça. Il y a Carpenter, notamment, qui regarde les workloads et qui est un autoscaler qui va essayer de consommer la. Déjà repacker les pods sur des nœuds et de réduire le nombre de nœuds et pour que ça matche ce qui tourne, mais il n'est pas magique non plus. Et du coup, il y a une boîte super intéressante qui s'appelle Cast.ai, du coup, donc, qui a fait le rapport dont je parlais juste avant, qui a train un modèle d'IA pour faire cette optimisation et en fait poser les requests et les limites à la place des développeurs en fonction du monitoring.
Alors, donc en temps réel.
C'est ça. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir entraîné un modèle? Parce que le monde du scaling, c'est le chaos. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses. Il y a des workloads prédictifs avec de la saisonnalité, il y a des pics de charge non prévus, il y a des patterns de scaling liés à du patch, donc à certaines heures très précises, ça fait des gros spikes. Donc quand je parle des workloads prévisibles, il y a des boîtes qui se servent de ressources de compute par rapport à des bureaux qui sont ouverts, donc en fait ça monte le matin, c'est du plateau et ça redescend le soir. Il y a plein de choses comme ça, et en fait, essayer de faire un algo à la main qui gère tous ces cas-là, je pense qu'on peut, avoir des choses intéressantes, mais on va. En fait, le truc est très générique, quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait le faire avec du filtre bayésien ou des choses comme ça, mais on va probablement assez vite tomber sur des cas non prévus, donc c'est un peu une guerre de courir après la réalité, et c'est pour ça que je trouve que c'est le genre de contexte où entraîner des modèles, c'est intéressant. Alors forcément, le modèle est pertinent que pour quoi il a entraîné. Maintenant, le placement de Cast.ai est intéressant parce que c'est un peu le même que le nôtre. C'est-à-dire que le fait d'avoir énormément de clients leur permet d'apprendre énormément de workloads et d'être de couvrir le maximum de cas. Donc on a discuté pas mal avec eux. On va essayer de faire tourner ce truc-là chez nous en tant que plugin bientôt. Et si ça prend, pourquoi pas discuter avec eux d'un partenariat.
Carrément. Bon, intéressant, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne sur notre cluster.
Ben ouais, moi aussi.
Moi, sur l'histoire de comment un développeur règle ses requests et ses limites, je me rappelle que je n'embêtais pas forcément quand je disais sur un test que je faisais où je demandais à Claude, bah fais-moi un payload qui fait ça dans Cube, tu le mets dans un pod, tu mets un déploiement qui fait ça, machin. Et je laissais écrire le YAML, parce que clairement le YAML, c'est pas fait pour être écrit à la main. et Claude, il insistait pour toujours mettre des requests et des limites. Et je regardais, et puis il avait tendance à prendre toujours, beaucoup dans le doute parce qu'il sait pas trop en fait, mais il y tenait à absolument tous les pods. Faut que pour Claude il y ait des requests, il y ait des limites.
Je suis content parce que pendant des années, dans tous les cours de Kubernetes que j'ai donné, j'essayais d'expliquer que c'est un truc qui ne devrait pas être optionnel, mais tout en expliquant que en fait le problème c'est le mesurer et quand tu développes une app. Souvent, tu ne le sais pas, jusqu'à que l'app est faite, elle tourne en prod et tu vois au bout d'un certain temps quels sont les besoins réels. Donc, tu pars souvent dans des trucs conservateurs et comme toi tu dis et comme Antoine a expliqué, souvent tu mets beaucoup trop pour t'assurer qu'au moins ça va marcher.
Et c'est pire que ça, Horatio, parce qu'en fait, c'est faussement facultatif. En fait, le fait de ne pas mettre de requests et de limites, de mettre des requests et des limites ou de mettre des requests qui matchent les limites a une incidence significative sur ta priorité au scheduling dans le cluster. C'est-à-dire que si tu ne mets pas de requests et de limites, tu es considéré comme un mec qui ne sait pas ce qu'il fait.
Oui.
Donc en fait, ta workload va être placée en dernier et va être evict très tôt parce qu'on sait que tu vas mettre le bazar.
Tu es considéré dangereux. Mais c'est ça que j'expliquais. Ce n'est pas optionnel. Quoi. C'est pas optionnel.
C'est-à-dire mais que c'est un piège.
Mais du coup, les mauvais. En fait, je comprends l'idée de les rendre pas optionnels comme ça.
Moi aussi.
Mais le piège de ça, c'est que tout le monde. Bon, si je dois mettre. Autant je mets une CPU et un giga de mémoire pour ma petite API. Et là, dans la vraie vie, effectivement, j'ai vu des utilisateurs qui disent mon cluster a besoin de plein de nœuds pour pas grand-chose. Oui, si tu déploies 10 API et chaque API te le demande un giga de mémoire, une CPU complète, commence à faire les calculs, quoi.
En fait, si tu réfléchis, ce qui est assez cynique, c'est qu'on a fait une grande boucle. On est parti de workload statique. On disait, je veux un CPU, un giga de RAM dans du public cloud, machin.
Voilà. Tu vois.
On a fait tout un truc d'auto-scaling dynamique où on peut tout provisionner, c'est magique et tout, pour revenir à dire, ouais, mais ma workload, elle doit être prévisible et elle doit être statique. Et par principe, je trouve ça un peu contre-intuitif en termes de produit, quoi.
Ah, mais je trouve ça magique. Donc, c'est pour ça que Carpenter, ça me semblait déjà une première piste. Mais là, si Castreai arrive à faire un truc qui a vraiment de sens, ça pourrait changer beaucoup les choses parce que, effectivement, des clusters qui sont infrautilisés à cause des limites et des requests mal placés, ça a toujours été un problème réel, quoi.
Ouais, ce que j'ai vu dans la doc, on vous link la doc bien sûr, mais de KCI, mais ce que j'ai vu, il y a des intégrations avec Carpenter, ce qui ferait sens pour se brancher sur la partie autoscaling, virtualisation de ce truc-là. Donc ouais, on a des plans, notamment Gilles a des plans, pour tester Carpenter et voir comment on peut pousser l'intégration de ce truc-là et de KCI à terme. Quoi.
Bon, nickel, ça c'est une autre nouvelle. Tiens, tu m'avais parlé tout à l'heure aussi de Carmada.
Ouais, donc un projet qui a été rajouté à la CNCF. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais il y a une époque où Cube a sorti un truc qui s'appelle la Fédération.
Oui.
J'ai jamais essayé, mais je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont essayé. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et à dire ce que vous en avez pensé. L'idée derrière la fédération, c'était de dire on prend N cluster cube et on fait un méta cluster cube avec ces cluster cubes, c'est à dire qu'on va démarrer un control plane avec de l'élection dans le cluster cube, etc. Sur le papier c'est intéressant, après ça fait quand même beaucoup d'utilisation de ressources, donc il y a des gens qui ont une approche un peu différente pour faire ça. Et un peu plus, en fait, enfin, pas si différente, mais plus qu'il manque des briques en fait à la fédération pour que ça marche bien, notamment en termes de healing, d'auto-healing, de monitoring, etc. Il faut comprendre ce qui se passe dans chacun des clusters pour être capable de faire du scheduling correct dessus. Et c'est ce que Karmada propose. Donc si jamais vous êtes venu dans le monde de Cube pour pouvoir faire du multi-cloud, etc. Par exemple, je vais faire un peu le forceur, mais mettre un cluster chez Scaleware, un cluster chez VH, un cluster chez nous. Wink, wink. C'est un outil intéressant pour faire ce genre de choses. À la fois, vous vous abstraire d'une failure locale d'un des cloud providers en permettant de reschéduler votre workload et en même temps en gardant le point d'entrée qui est Kubernetes et qui est assez cool pour ça.
Et l'architecture, telle que c'est décrit dans le GitHub, ça fait sens. C'est en gros un control plane avec un API server Karmada plutôt que Kubernetes, un etcd, un scheduler et des contrôleurs. En gros, un control plane à la Kubernetes, mais qui va contrôler plutôt que de nœuds des clusters. Donc, ça me rappelle aussi des choses que Rancher fait, qui à l'époque, des choses que j'avais vues avec Tansu, par exemple, mais ça a l'air d'être relativement simple et c'est un projet SNCF. Donc, c'est plutôt cool de ce point de vue.
Carrément. Et c'est marrant, je regardais les supporters dans leur page. Il y a énormément de marques chinoises, et notamment Alibaba, qui ont sorti des papiers de recherche super intéressants sur « Oui, mais bonjour, on a essayé de démarrer 100 000 nœuds dans un cluster cube. Ça s'est pas bien mis. Voilà pourquoi. Voilà comment on va récupérer au TCD. » Et du coup, je pense que dans l'eau, il y a Huawei aussi. Il y a des usages, je pense, assez intéressants de cube à aller creuser de ce côté-là. Donc allez voir ce projet-là. Je pense que ce sera bénéfique pour ceux qui ont le besoin.
Avec des multi-clusters. Ça serait bien, ce moment donné, on trouve le temps de sortir un petit exemple réel de comment ça marche.
Ça serait cool. Et puis, puisqu'on a beaucoup parlé d'utilisation avant et de surutilisation de Kubernetes, il y a un projet qui s'appelle, qui a l'air un peu marrant, je n'ai pas du tout la pertinence du truc, mais je trouve ça drôle de voir ça. C'est un truc qui essaie de calculer l'impact en émissions de CO2 d'un cluster cube. Alors, pourquoi je dis que je suis pas sûr de la pertinence? Le calcul CO2, il est fait en général sur l'amortissement des matériaux, carte mère, processeur, etc., parce que c'est des composants qui ont une footprint CO2 qui est assez importante. Parce que je ne sais pas s'il y en a qui s'intéressent un peu à comment est-ce qu'on mine des ressources, mais souvent les pourcentages de ce qu'on récupère dans ce qu'on mine est très très faible. Donc en fait, on mine énormément en volume, ce qui a un impact CO2 important parce qu'il faut des machines pour le faire. Et ensuite, on raffine énormément pour avoir certains matériaux. Déjà, le taux de matériaux qu'on a quand on mine est très faible. Il est encore plus faible sur certains composants dont on a besoin pour faire ces machines-là. Donc en fait, il y a toute une enveloppe CO2 qui est sur le matériel. Mais ensuite, notre stack d'IT moderne, elle est très compliquée pour gérer de l'optimisation. En fait, la virtualisation, c'est le même CPU sur lequel on fait du context switch tout le temps, en fonction de chaque VM, de toutes les VM qu'il y a dessus. Et ensuite, Cube, le principe, c'est qu'on démarre des process qui sont dans des boîtes en carton qu'on appelle les cgroups et les namespaces, et que même eux, ce context switch en utilisant le kernel, sur qui a le droit d'utiliser le CPU sur lequel on context switch déjà. Donc calculer le pourcentage d'utilisation de qui utilise le CPU physique pour calculer son impact, que ce soit de la consommation électrique dans les pays qui n'ont pas d'électricité bas carbone, ou l'amortissement finalement en termes de CO2 des machines, c'est un exercice un peu périlleux.
C'est surtout que chaque cloud provider, chaque data center a des consommations électriques différentes, aussi des sources d'électricité différentes. C'est un truc qui est pas généralisable en absolu, sauf si tu as littéralement toutes les données.
Donc,
je me souviens d'une vie précédente, la calculette carbone développée pour un cloud provider, quand ils ont voulu le faire bien, tous les paramètres qu'il y fallait prendre en compte, je ne vois pas comment un simple projet, sans lien très étroit avec chaque provider pourrait donner un truc qui reflète la vérité si on arrive au plan matériel. Si on parle d'autre chose, ouais, peut-être.
Bien ça, tu peux ajouter aujourd'hui, si jamais tu as de l'IA dans ton pipeline, bah du coup, ton modèle, il a été entraîné peut-être aux États-Unis, peut-être dans un data center qui a pas du bas carbone. Enfin, tu peux pas, c'est compliqué de tout compter, quoi.
Ouais, donc je sais pas, ça vaut le coup de regarder.
Si vous connaissez GreenCube, ou mieux encore, si vous vous occupez ou vous participez au projet, on est preneur de tous les infos. Et même si vous voulez venir nous raconter comment ça marche, on vous accueille avec plaisir dans un prochain massif parce que les sujets, ça nous intéresse vraiment comment c'est fait.
Bah, c'est clair, et puis je pense que c'est un besoin de plus en plus important de calculer sa footprint d'infrastructure, et en fait je pense que c'est aussi un levier pour montrer à quel point du cloud bien utilisé, en fait c'est une optimisation de performance par rapport à du bare metal qui cite et qui fait pas grand chose. Donc surtout qu'on a, il y a eu pas mal de désinformation ces dernières années sur dans le milieu du numérique, parce que les gens voient énormément de data centers se monter et ne voient pas forcément la mise en perspective de ce que ça permet de faire aux gens avec la vidéo, etc., ou les flux de données, etc. Donc ouais, il y a de la croissance, mais la croissance, elle est liée aux usages, et en fait, montrer à quel point on est capable d'optimiser chaque seconde et chaque moment d'utilisation d'infrastructures physiques. Je pense que on a un métier où l'optimisation existe depuis longtemps et on essaie de la pousser très fort. Donc si on arrive à mettre ça en avant, c'est une victoire.
Écoute, à suivre alors.
C'est clair.
Bon, on a fait 46 minutes quand même. Tiens, tu ne vas pas être Kubernetes. Gilles, tu me parlais tout à l'heure des news que tu as vu passer par rapport à la DINUM.
Ouais, donc j'ai vu la DINUM, donc Direction Interministérielle du Numérique, qui veut passer son personnel sur... et les serveurs également sur un nouvel OS plus maîtrisé qui serait basé sur NixOS. Donc on va y revenir, et du coup ils ont deux stacks, enfin deux OS qu'ils ont partagé en fait comme sur GitHub. Ils ont fait un projet open source, donc le premier OS c'est Securix et il y a Bureautix. Donc on dirait un peu des noms de personnages d'Astérix et Obélix. Ouais, donc Securix, si je dis pas de bêtises, c'est l'OS plus pour des serveurs, et Bureautix plus pour les ordinateurs des personnes de l'agence. Et donc oui, ils se sont basés sur NixOS, qui du coup est un OS qui se veut, de ce que j'ai vu, qui est beaucoup utilisé en Europe principalement. Enfin, pas principalement, mais pas mal d'Européens qui l'aiment bien. Du coup, je sais pas pourquoi, mais et du coup, il est basé sur en fait la reproductibilité. C'est le maître mot de cet OS. Moi je suis sur NixOS justement.
Il y a énormément de chez Clever Cloud qui sont sur, ouais, NixOS. J'ai testé personnellement pendant des mois, mais ça me complique pas la vie plus que ça me la facilite. J'ai pas été assez carré pour le faire, j'avoue, mais j'ai vu plein de collègues qui sont très heureux sur Nix.
Ouais. Moi, a posteriori, je dirais pas que je suis forcément heureux que ça soit mon OS. Mais par contre, en gros, il y a deux choses. Il y a NixOS, qui du coup, tout ton OS est basé sur le monde Nix. Et Nix, c'est un package manager qui justement se veut reproductible, dans le sens où en fait, quand tu installes, en fait, tout ce que tu vas installer avec Nix va être installé dans une arborescence de fichiers. Donc globalement, en tout cas sur NixOS, du coup tu n'as pas de slash lib dans lequel tu as ta lib std ou ton lib je sais pas quoi qui est partagé entre différents programmes utilisateurs de ton ordi. Chaque librairie va être dans un dossier séparé dans ton slash Nix. Et donc ça permet que tu puisses installer n'importe quel paquet, du coup, donc quel programme. Et toutes les dépendances vont être dans un dossier, donc il y a une histoire de checksum pour que tu puisses savoir de quelle version est ce paquet exactement, etc. Donc si tu as plusieurs programmes qui utilisent les mêmes lib, bah, la lib est mise en commun. Mais si jamais tu installes un nouveau programme qui a besoin d'une nouvelle version de la lib std, par exemple, tu vas l'avoir en double dans les deux versions. Et du coup, ça te permet que tu n'as jamais, en mettant à jour les dépendances d'un de tes paquets, tu ne vas pas casser les dépendances des autres. Et d'où le principe de reproductibilité, c'est que tu puisses faire en sorte de décrire, parce qu'il y a beaucoup ça en fait sur Nix, tu peux décrire ton environnement en disant je veux ces paquets-là dans ces versions-là, et tu vas les avoir. Et si jamais tu upgrades un de ces paquets, normalement ça n'a pas d'impact sur le reste, sur les autres de tes paquets.
Et aussi, grand intérêt qu'il y ait pour une installation massive dans des postes gouvernementaux et tout ça, c'est les côtés parfaitement reproductibles, les côtés OS immutables. Et si je vois bien, la partie Securix vient de fait qu'il respecte d'énormes. Ainsi, donc, plus de mots de passe, authentification des facteurs YubiKey partout, et toute une série de mesures pour les endurcir, donc un système endurci et parfaitement reproductible.
Ouais, je pense qu'il y a, de la perspective à prendre là-dessus. Moi, je l'ai pas mal utilisé aussi pendant un moment. J'ai atteint des limites un peu du fait qu'il y ait beaucoup de symlink. Pour faire fonctionner cet outil-là. Donc en termes de perf, ça avait l'air d'impacter un petit peu. Mais effectivement, c'est assez magique. Je suis assez d'accord que d'un point de vue développeur, le côté packet Nix est vraiment cool. NixOS, c'est pareil. Je suis un peu en usage à titre personnel quand on a le contrôle de son poste. C'est peut-être un peu moins intéressant. Mais le packet manager Nix est cool. Par contre, effectivement, pour la Dynum, l'approche est très différente.
Ah ouais.
Historiquement, c'est des gens qui utilisaient du Windows, justement parce que ça leur permettait de faire de la gestion de flotte avancée.
C'est ça.
Et sur Linux, les outils de gestion de flotte, il y en a à grande échelle, il n'y en a pas tant. Donc en fait, je trouve ça assez malin d'avoir été chercher NixOS, où le file system est read-only, ce qui donne plein de garanties sur l'installation, le contrôle des repos est aussi assez précis suivant comment on configure l'outil et tout. Donc ça leur permet de sortir assez vite des environnements spécifiques avec des niveaux de droits différents, des niveaux de tooling différents et tout, ce qui est un besoin qu'il y a sur les grandes organisations. Donc je trouve ça malin d'aller vers là. Et puis on peut que saluer les efforts côté gouvernement sur ces sujets-là, que ce soit Securix Bureautics ou Genbuntu qui a équipé de la gendarmerie ces dernières années. Je pense qu'en termes de souveraineté et d'assurance que les outils critiques du pays fonctionnent dans tous les cas possibles du futur, c'est une très très bonne approche.
Bon, bah, projet à suivre, j'imagine. Non, je vois que l'idée, c'est faire Securix comme le système noyau et Bureautix, ou des versions de Bureautix adaptées aux différentes administrations avec les différents besoins. Donc, l'idée semble, en tout cas, assez sympathique pour faire une gestion des postes.
Pour l'instant, ça a l'air d'être plus un test que... une réelle décision, j'ai l'impression, mais j'espère en tout cas que ça va porter ses fruits et que, au final, si on peut tout passer déjà sur Linux, c'est sûr que ça peut que être bien, mais surtout sur NixOS, je pense que ça va beaucoup les aider, toute la sécurité que peut apporter NixOS.
Bon, bah, nickel. Et là, mine de rien, on a déjà fait presque 55 minutes d'épisode. Donc peut-être c'est un bon moment pour couper ici. Mais avant de couper, il faut respecter les traditions. Est-ce que vous pourriez me donner une musique de fin pour finir l'épisode? Allez, Gilles, c'est ton tour. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a souvent dans tes oreilles que tu veux partager avec les gens qui nous écoutent?
Alors là, comme ça, en ce moment, je suis pas mal podcast, donc Bientôt, je vais ouvrir mon Spotify pour regarder.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans son Spotify? Aussi, Panda, si tu as une idée, je te laisse kidnapper le tour de Gilles et Gilles fera le deuxième épisode.
On peut faire comme ça, oui.
J'ai une petite vibe électro, comme d'hab, avec de la cornemuse.
Ça me va.
Du coup, je linkerai, je mettrai dans la description, mais c'est Fulls Polka de Plantech.
Nickel. Bon, sur ces recommandations musicales, merci Gilles, merci Antoine, merci tout le monde d'être là, et à très bientôt.
Merci.
Salut.